À l'obligation de vacciner nos enfants contre la diphtérie, le tétanos et la polio, faut-il ajouter les vaccins contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, l'hépatite B et autres? En tout, 11 vaccins qui seraient rendus obligatoires au lieu de 3 seulement aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe en a fait l'annonce dans son discours de politique générale au début du mois. Et depuis, la polémique s'est amplifiée entre ceux qui saluent une nécessité de santé publique et ceux qui dénoncent une remise en cause des libertés thérapeutiques, accusant également au passage le gouvernement de favoriser les laboratoires. Étendre la vaccination de façon contrainte ou bien préférer la pédagogie pour redonner confiance aux Français, c'est le sujet de ce téléphone sonne. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux ou par mail franceinter.fr.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Pour en débattre avec nous ce soir en studio, Dominique Dupagne, médecin généraliste, chroniqueur à la tête au carré. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien. Professeur François Bourdillon, directeur général de Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir également à François Vier-Lesage, pédiatre, membre de l'AFPA, Association française de pédiatrie, signataire d'une tribune pétition dans Le Parisien cette semaine pour la vaccination obligatoire et élargi. Vous êtes en duplex de France Bleu Savoie à Chambéry. Bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Et tout de suite, un premier auditeur, c'est Eric, je crois, qui nous appelle de Callian. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Ma question est la suivante. Rendre les 11 vaccins obligatoires ne risque-t-il pas de développer de la suspicion et de la réticence? Parce que moi, j'ai 57 ans, je fais partie d'une génération qui a vacciné ce qui devait être vacciné. Je suis entouré de jeunes mamans et de jeunes papas qui ne comprennent pas qu'on les rende obligatoires, sachant en plus que certains médecins font des attestations qui permettent aux enfants non vaccinés par rapport aux 3 obligations à l'heure actuelle de fréquenter des lieux qui nécessitent une vaccination. Donc voilà, moi je me demande s'il aurait mieux pas fallu faire de la pédagogie plutôt que d'imposer 11 vaccins obligatoires, parce que peut-être que en expliquant que pour certains enfants, certaines maladies, en expliquant les risques, en expliquant les complications possibles, parce que il est clair qu'à l'heure actuelle avec Internet, il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet et qui s'interrogent fortement sur le fait pourquoi 11 vaccins obligatoires, alors qu'avec 3 vaccins obligatoires à l'heure actuelle, il y a déjà des gens qui ne faisaient pas vacciner leurs enfants.
Voilà, merci Eric. Dominique Dupagne, c'est tout à fait votre point de vue. Mieux vaudrait faire un peu de pédagogie.
Pendant que Madame Buzyn a lancé un débat, elle a dit qu'elle avait éventuellement l'idée de rendre 11 vaccins obligatoires. Je me suis exprimé très vivement contre cette obligation pour plein de raisons, et notamment sur le fait que c'est difficile actuellement de faire des opérations de santé publique sans avoir la confiance des Français, et qu'à ma connaissance, l'obligation n'a jamais restauré la confiance. Mais bon, la décision est prise, la ministre l'a annoncé, le Premier ministre l'a annoncé. Pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt de continuer à combattre cette obligation. Je pense que le grand chantier maintenant, c'est d'apporter enfin aux Français l'information éclairée, honnête, complète, sincère, équilibrée, qui leur permettra de retrouver la confiance dans la vaccination et dans les autorités sanitaires. Et c'est vrai que l'obligation va rendre cette tâche encore plus difficile, mais on va y arriver.
Alors cette information complète et concrète dont vous parlez, bon, elle est sujette à caution, on va en débattre. Hein. Professeur Bourdillon, donc rappelons déjà l'objectif d'une vaccination de masse et ses résultats. Rappelons quand même à la base de tout, c'est qu'elle a réduit la mortalité infantile de façon drastique. On a tendance à l'oublier.
Oui, les vaccins sont très efficaces pour réduire les maladies. Rappelons aussi que les 11 vaccins dont il est question sont d'ores et déjà utilisé pour l'ensemble de la petite enfance. La difficulté, c'est qu'il y a une faible partie des enfants qui n'est pas vaccinée, 10% des enfants de moins de 2 ans pour la rougeole et 30% pour le méningocoque, pour prendre ces deux exemples. Et malgré tous les efforts de pédagogie depuis des années, il persiste une certaine défiance, et la décision de la ministre, elle est là pour finalement protéger les enfants en promouvant la vaccination, et la question c'est restaurer la confiance, et la vaccination obligatoire est un moyen de restaurer la confiance parce que ça donne confiance, c'est une position de l'État très en faveur de la vaccination et de la protection
des enfants.
Donc pour
vous, l'obligation restitue la confiance?
Absolument.
C'est pas du tout
une divergence que j'ai avec M. Dupagne.
Alors, à l'origine de cette décision de la ministre, il y a une recrudescence de certaines maladies infantiles, notamment la, la rougeole. On a appris aujourd'hui même, justement, qu'une adolescente non vaccinée était morte de la rougeole à la fin du mois de juin à Marseille. Hein, la, la ministre en avait parlé à l'Assemblée nationale et l'assistance publique hôpitaux de Marseille a confirmé cet après-midi. Donc c'est bien ça, 200 cas de rougeole en France depuis le début de l'année.
C'est même plus que ça, c'est parce que c'est le Santé publique France qui fait les l'épidémiologie de la, des maladies à prévention vaccinale. C'est 381 cas de rougeole et donc effectivement je confirme le décès de cette jeune fille de 16 ans non vaccinée sur la région PACA. C'est deux encéphalites, c'est 32 pneumopathies, c'est 183 hospitalisations. Donc c'est quand même, lorsque vous regardez sur 6 mois de l'année, énorme en termes de coûts pour la santé et surtout de séquelles, parce que une séquelle de méningite c'est des séquelles pour la, c'est pour la vie. Je pourrais vous donner l'exemple des méningites. Si je prends depuis 2011, c'est 300 cas de méningite, 20% de séquelles et c'est hélas 30 décès.
François Vielle-Sage, vous êtes pédiatre en direct de Chambéry. Donc vous confirmez ces chiffres, j'imagine. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'opposent à ce principe de l'obligation de vaccination et qui répondent que la rougeole par an c'est un mort par an et ce sont des enfants qui de toute façon souffrent d'un déficit immunitaire qui leur interdit le vaccin.
Oui, merci de donner la parole. Je veux déjà revenir sur le problème des obligations et du message que ça introduit dans la politique vaccinale. Ça fait des années et des années qu'on reproche aux gouvernements successifs de ne pas envoyer de messages forts, de ne pas communiquer, de ne pas faire de pédagogie et d'avoir l'air de se foutre un peu de la vaccination. Là, pour une fois, on a enfin un message fort. L'obligation, nous, on le prend, nous, vaccinateurs de terrain, qui vaccinons tous les jours, on en avait un peu marre d'avoir des gens qui nous disaient « je veux que ça soit obligatoire » et le gouvernement, finalement, qui ne changeait rien. L'obligation, donc, c'est un message d'État, d'abord. C'est un message de l'État qui dit « nous faisons confiance dans le calendrier vaccinal ». Il faut bien dire aux gens, parce que nos patients nous le disent tous les jours, « ah oui, mais il va y avoir 11 vaccins en plus ». Pas du tout. On rend juste obligatoire les vaccins que nous, et les médecins généralistes ou pédiatres qui vaccinent, le font tous, que nous faisons depuis des années. Donc il y a enfin un message fort, il y a enfin une communication, et il y a enfin, on va aller dans une direction qui, parce que moi, concrètement, si on peut se passer d'obligation, je demande pas mieux, mais en France, concrètement, on peut pas. Et nous, dans notre pratique de tous les jours, c'est essentiel. Pourquoi ? Dans une crèche, quand un enfant rentre en crèche, les parents disent « ah ouais, mais j'ai les vaccins obligatoires, donc mon enfant peut rentrer ». Il rentre sans vaccination rougeole et il risque de contaminer, de donner des encéphalites à tous les enfants de moins d'un an qui n'ont pas pu être vaccinés. Dans notre cabinet, les gens nous disent « on veut les vaccins obligatoires ». Je l'ai vécu déjà cette semaine. Ah ouais, des gens, tout à l'heure, une mère dont l'enfant n'avait que deux tétracoques, c'est-à-dire qui correspondaient pas aux recommandations en vigueur, mais elle va rentrer en crèche en septembre, et ben m'a demandé de lui faire un programme qui correspondra aux obligations.
Parce que là aussi, François Vielle-Sage, une précision qu'on oublie aussi là, souvent, c'est que le vaccin, c'est une protection individuelle, c'est aussi une protection pour les autres.
Bah tout à fait. On remet pas, je crois qu'on est tous d'accord, tous les trois sur ce plateau, sur l'intérêt de la vaccination, sur l'intérêt individuel, sur l'intérêt collectif. C'est peut-être sur cette technique, on va dire, politique de mettre l'obligation. Et il faut bien dire, rassurer Eric qui a parlé au début, les gens qui vaccinaient correctement leurs enfants jusqu'à présent ne verront aucune différence. Ce sont ceux qui refusaient de vacciner et mettaient les autres en danger, parce que ne pas vacciner son enfant, c'est le mettre en danger, mais c'est le mettre aussi les autres en danger, qui vont voir une différence.
Alors je reprends la question que je vous posais. Est-ce que ces cas de rougeole ou d'hépatite apparus ces derniers mois sont vraiment une situation nouvelle, nous met vraiment dans une situation nouvelle, puisque je vous rappelle ce que disent les anti-vaccins, c'est que ce sont des enfants qui souffrent de toute façon d'un déficit immunitaire.
Pas du tout. Donc c'est juste, bon, comme d'habitude, des messages faux. Le problème de la rougeole, si vous voulez, la dernière épidémie, c'est une épidémie qui a culminé en 2011, mais qui a été de 2009 à 2012-13, avec plus de 25 000 cas, qui a rien à voir avec les épidémies qu'on avait avant la vaccination, le début de la vaccination en 1980, où là, c'était par centaines de milliers de cas de rougeole qu'on avait des problèmes. D'ailleurs, c'est intéressant, les chiffres qu'a donné François Bourdillon, parce que ça montre que, alors qu'avant avant la vaccination, on avait un cas sur 1000 de formes graves. Maintenant, on a deux encéphalites sur quelques centaines de cas. Pourquoi ? Parce que c'est des enfants non vaccinés grands qui vont contaminer des enfants plus petits, parce que la vaccination se fait qu'à un an. Or, l'enfant de moins d'un an, c'est le plus à risque. Et donc, on contamine ainsi non seulement d'autres enfants, mais des enfants plus vulnérables, qui vont faire plus de complications que les autres. Pour que la rougeole soit, qu'on règle le problème de la rougeole en France et en Europe, il faut qu'il y ait 95% d'enfants vaccinés à deux doses.
Et on en est à 90.
On est à 80.
90.
Ouais, même pas.
À peu près.
80. Ouais. Ouais, 80, je crois. Ouais.
Retour au standard avec Christelle. Bonsoir, Christelle.
Oui, bonsoir.
D'où nous appelez-vous ?
Alors, moi, je vous appelle de Paris.
Et, bienvenue.
C'est plus, merci. Merci de prendre mon appel. Et c'est plus pour une remarque qu'une question. Donc, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants entre 16 et 12 ans et je les ai toujours fait vacciner contre tout et pour tout. Et j'ai côtoyé des mamans qui, elles, ne faisaient pas vacciner leurs enfants pour quelque raison que ce soit. Mais je trouve que ces gens-là, finalement, profitent du système parce qu'ils profitent que leur enfant va évoluer dans un environnement où les autres sont vaccinés et que finalement, leur enfant n'aura pas forcément telle ou telle maladie parce que les autres enfants autour, eux, sont vaccinés. Donc, je trouve que c'est pas très citoyen comme comportement de dire non, je peux pas vacciner mon enfant pour une raison quelconque et de profiter finalement de la situation et de l'entourage qui lui est vacciné. Voilà, donc moi je suis très contente que ça devienne une obligation et pour ma part, moi c'est toujours fait pour mes propres enfants.
Voilà, un témoignage que vous approuvez, François Bourdillon, j'imagine.
Oui, j'approuve. Quoique je suis pas très gêné puisque l'innocuité des vaccins elle est réelle, on a quand même un tel recul sur des vaccins qui sont utilisés chaque année à plus de 100 millions de doses dans l'ensemble du monde entier. Les vaccins de la petite enfance ne posent vraiment pas beaucoup de problèmes. Mais je vais revenir sur cette histoire de protection collective parce que elle est très importante et elle explique pourquoi l'État se mobilise pour donner des repères dans la vaccination. Et je prends l'exemple de la sécurité routière. La sécurité routière, ça a permis, avec de l'obligation, alors l'obligation, la ceinture de sécurité, la limitation de vitesse, de réduire, en 1971, on avait 18 000 morts, on en a aujourd'hui 3 500. Et c'est parce qu'on veut protéger les personnes qui sont en danger que l'État prend une décision. C'est pas qu'une décision de liberté individuelle, c'est
oui,
une
comprends.
Décision collective. Mais
justement, Michel Depau nous demande, il nous dit, je suis directeur de séjour de vacances, est-ce que j'ai le droit d'accueillir des enfants non vaccinés ? Quelle est la véritable ampleur du risque que je prends ?
Il y a un calendrier vaccinal. Les enfants non vaccinés sont exposés au risque d'attraper une maladie vaccinale. Et en particulier chez les adolescents, on peut penser au risque de la méningite. Et je vous assure, pour avoir été clinicien, le drame que ça représente dans une famille, de voir son enfant atteint de méningite, soit parce qu'il décède, soit parce qu'il est atteint de séquelles.
Et dans la mesure où tous les vaccins ne sont pas obligatoires, il ne peut pas refuser ses enfants, bien entendu.
Voilà, mais ce sera peut-être plus le cas dans quelques mois.
Bruno nous appelle de Rennes. Bonsoir Bruno.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. D'emblée, pour situer où je me positionne, je suis plutôt dans la plutôt contre les vaccins. Alors, je vous raconte un petit peu. D'abord, je me pose la question pourquoi sur le plateau vous n'avez pas vraiment des médecins ou des chercheurs qui s'opposent à la vaccination, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de médecins qui s'y opposent.
Ben, on comptait sur vous, justement, pour porter la contradiction.
Je suis pas médecin. Mais donc, il y a beaucoup de médecins qui s'y opposent. Malheureusement, ils peuvent pas le dire, parce que s'ils le disaient, si ça se savait, il se ferait radier de l'ordre des médecins.
Bah vous êtes, donc vous faites la réponse à votre question.
Oui, non, mais donc c'est ça aurait été intéressant que vous ayez aussi comme des scientifiques qui puissent effectivement apporter des arguments scientifiques pour contre la vaccination. Ensuite, autre chose, dans beaucoup de pays d'Europe aujourd'hui, les vaccinations sont pas obligatoires. Hein. Est-ce qu'en France, on est plus malade pour qu'on nous impose toutes ces vaccinations ? Ensuite, autour de moi, j'ai beaucoup de parents qui ne vaccinent pas leurs enfants, tout simplement pas par idéologie, mais c'est parce qu'ils sont intéressés, comme ils sont intéressés à la manière d'éduquer leurs enfants. Leurs enfants s'en portent très bien, mes enfants s'en portent très bien, ils sont pas malades. Et une dernière anecdote.
Attendez, ils ne les vaccinent pas contre...
Contre rien.
Contre rien, même les vaccins obligatoires.
Bien sûr. Une dernière anecdote. Mon petit garçon, quand il était tout petit, il a eu la coqueluche. Le médecin lui a dit, écoutez, ce qu'on peut faire pour la coqueluche, vous prenez, vous faites un baptême de l'air, vous montez votre enfant à 3000 mètres, vous verrez, ça passera. C'est ce que j'ai fait, je suis allé à l'aéroclub de l'endroit où j'habite. Le pilote, qui était un ancien militaire, on a pris l'avion, au moment de décoller, il dit « vol coqueluche ». Comme quoi, c'est des choses qui se faisaient tout à fait naturellement à une certaine époque. Pour soigner certaines maladies, il y avait des méthodes peut-être plus naturelles que le fait de se vacciner.
Bien, merci Bruno pour votre témoignage. La parole au médecin, Dominique Dupagne, une réaction.
C'est très intéressant d'entendre ça, parce que vous avez là un petit résumé des thèses, des gens qui sont vraiment opposés au vaccin. Pas les sceptiques, hein, vraiment les gens qui sont opposés au vaccin et qui nous disent des choses qui, scientifiquement parlant, sont ahurissantes. Bien sûr que quand on n'avait rien et que les bébés mouraient comme des mouches avec la coqueluche, on avait expérimenté les vols en altitude, parce que quand on diminue la pression d'oxygène dans les poumons d'un bébé qui a la coqueluche, on peut transitoirement améliorer son état. Mais on peut aussi remettre des ventouses ou mettre des sangsues, si vous voulez. Il est clair que la mortalité de la coqueluche s'est effondrée grâce à la vaccination. Mais je voudrais revenir justement sur ce problème d'information. C'est même l'intervenante précédente. On dit les vaccins protègent les autres. C'est pas si simple que ça. Le tétanos, on ne protège que soi. Le tétanos n'est pas contagieux, donc les gens qui se vaccinent pas contre le tétanos ne mettent en danger personne et ne sont pas protégés par les autres. Dans la rougeole, on protège les autres. C'est clair qu'on empêche la maladie de circuler, donc on a un effet protecteur. Dans la rubéole, c'est plus compliqué. Un garçon qui se vaccine contre la rubéole, ça ne lui sert strictement à rien. Mais en revanche, il va lutter contre la diffusion de la maladie auprès des filles. Et la rubéole, c'est grave uniquement quand on est enceinte. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans la rubéole, quand vous vous vaccinez, vous mettez en danger les non-vaccinés. Pourquoi ? Parce que quand vous vous vaccinez, quand vous êtes une fille, vous n'attraperez pas la rubéole. Donc vous ne serez pas concerné par les malformations de l'enfant. En revanche, étant vacciné, vous diminuez la circulation du virus. Et on sait que dans ces cas-là, tant qu'on n'a pas atteint 95% de vaccinés, on va avoir des rubéoles qui vont survenir plus tard chez des femmes plus âgées. Et donc paradoxalement, quand vous débutez une vaccination contre la rubéole, eh bien vous augmentez le nombre de malformations.
Donc c'est effectivement pas simple et il y a besoin d'une pédagogie.
Donc il faut vraiment qu'on fasse une information, qu'on ne soit pas dans des schémas vraiment trop réducteurs. Et c'est ça que je défends.
Alors, sur ce que disait Bruno, qu'on n'a pas invité de scientifiques opposés à la vaccination, est-ce qu'il y en a déjà ?
Alors, très honnêtement, moi qui suis pourtant parfois considéré comme un anti-vaccin pour mes prises de position critiques, je peux vous dire que des gens scientifiquement sérieux qui pensent que globalement la vaccination est une mauvaise chose, ça n'existe pas. C'est pas des vrais scientifiques, je suis désolé. Alors c'est vrai que le professeur Joyeux, qui est un homme qui a eu quelques titres, s'est battu contre la vaccination. C'est vrai qu'il a été radié du Conseil de l'Ordre parce qu'on a considéré qu'il mettait des gens en danger par son discours. Ça reste quand même très anecdotique. Mais de la même façon qu'il n'y a pas de scientifiques sérieux qui pensent que la Terre est plate, il n'y a pas de scientifiques sérieux qui pensent que la vaccination est une mauvaise chose.
François Bielesage, notre auditeur Bruno, disait quand même quelque chose de juste. C'est que tous les pays ne proposent pas de vaccination obligatoire. En Allemagne, par exemple, rien n'est obligatoire et les Allemands ne sont pas plus malades que nous.
Oui, alors ça fait partie un peu des fake news qui sont qu'on voit dans les réseaux en particulier. Alors je prendrai l'exemple de la Suède où on a vu dans les réseaux dire que la Suède avait interdit récemment l'obligation vaccinale. C'est pas du tout ça, c'est juste faux. Ils ont transmis simplement l'avis d'une association américaine qui sévit en Suède et qui est contre la vaccination. Mais le Parlement s'est bien réuni, mais qu'est-ce qu'ils ont constaté au Parlement ? Ils se sont demandé obligation ou pas ? Simplement, alors que nous en France, on est le pays du monde qui avons le plus d'hésitations vaccinales, 41% d'hésitants, versus 13% sur la planète et 17% en Europe. D'hésitants, je ne parle même pas des opposants. En Suède, eux, désolé, mais ils sont à moins de 8% d'hésitants, avec une couverture vaccinale, c'est-à-dire le nombre de gens vaccinés dans la population, qui est proche de 95-100%. Ils n'ont effectivement pas besoin d'obligation, ces gens-là. Et dans des tas
c'est
des
culturel, tas de alors, maintenant, c'est allemand. Ça c'est culturel.
Alors après, culturel, ou est-ce que c'est l'état d'esprit scandinave ou anglo-saxon ? Parce que les Anglais, c'est pareil, ils décident de mettre en place un vaccin sans obligation, ils le proposent, comme celui pour le méningocoque B, en septembre 2015, en janvier 2016, ils ont 90% des enfants vaccinés, et en juin, ils ont une pétition des parents qui exige que les enfants qui n'étaient pas rentrés dans ce protocole-là soient vaccinés aussi. On n'est pas dans les mêmes pays, la France est un pays particulier.
Et peut-être avons-nous eu quelques expériences malheureuses, je pense à la campagne systématique contre l'hépatite B, par exemple, en 1994.
Oui, bien qu'elle ait eu une grosse efficacité sur le plan épidémiologique, hein, cette population-là est pratiquement la mieux protégée de notre population, mais elle a été faite sur certainement de façon maladroite, un peu intempestive, avec des ministres qui n'ont pas eu le courage de tenir leurs engagements. Il y a eu aussi la grippe H1N1 en 2009, etc., où la gestion a essayé d'exclure les médecins de ville.
Gestion un peu alarmiste à l'époque, voilà. Oui. Dominique Dupin, ouais. Vous voulez réagir?
Non, c'est très important, en effet, de dire ça. On a des statistiques sur la confiance et la défiance des Français dans la vaccination depuis plusieurs années, qui sont publiées par Santé publique France à partir de sondages. On voit que pendant des années, il y avait à peu près 5% de la population qui était vraiment réticente. Et puis, brutalement, en 2009-2010, alors c'est une corrélation, c'est pas forcément une relation de cause à effet, mais on passe à 20% de sceptiques après l'immense fiasco de la vaccination contre la grippe H1N1. Et c'est vraiment une illustration des causes de la défiance, qui ne sont pas uniquement liées au discours des anti-vaccinaux, mais qui sont liés, à mon sens, et je vais être très dur par mes mots, à une faillite pédagogique de la part des autorités sanitaires. Le discours très paternaliste, c'est « circuler, il n'y a rien à voir, faites-nous confiance, la vaccination c'est bon, tous les vaccins sont parfaits ». Ce n'est pas vrai, les vaccins c'est comme les médicaments, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a même qui sont inutiles. Hein. La Santé publique France, ou en tout cas le Haut Comité technique des vaccinations, ne recommande pas le vaccin contre la varicelle parce que ce vaccin risquerait là aussi d'augmenter l'âge où les gens font les varicelles et d'augmenter sa gravité. Et donc les vaccins peuvent être discutés. Or, le discours officiel, un peu comme dans le nucléaire, c'est « ne dites rien, sinon les gens vont s'inquiéter, ils vont avoir peur ». Ce n'est plus possible. Dans les pays nordiques, il y a une très grande transparence de l'information. On dit tout, quitte à inquiéter peut-être les gens, mais au moins les gens ont l'impression qu'on ne leur cache rien. Et le paternalisme français fait que les gens ont finalement plus confiance dans des anti-vaccinaux qui documentent leurs arguments, qui mettent des références, que quand des scientifiques qui sont du haut de leur piédestal d'experts vous disent « mais non, mais c'est des conneries, ne faites pas con... n'écoutez pas ces gens-là, ça n'a pas de sens ». Il faut qu'on communique honnêtement.
Et vous dites un peu comme ce grand professeur, ancien président d'université, qui déclarait cette semaine que le recours à l'obligation vaccinale est peut-être devenu nécessaire, mais en tout cas, c'est un constat d'échec de la façon dont on fonctionne depuis quelques années.
C'est un échec de la pédagogie.
Adrien nous appelle d'Aurillac. Bonsoir Adrien.
Oui, bonsoir. Alors, moi je vais resituer dans le contexte. Je suis médecin spécialiste, évidemment absolument pas anti-vaccinaliste. Je vaccine mes patients contre l'hémophilus et contre le pneumocoque. Je suis traitement immunosuppresseur. Je suis d'accord avec les intervenants. La faute, elle est en premier lieu à une politique de santé publique venant des ministres qui a été absolument catastrophique. L'ère Bachelot a été une catastrophe. L'ère Touraine, je n'en parlerai même pas tellement ce nom me fait horreur. Mais j'avais quand même une question, moi, en tant que médecin, sur l'hépatite B particulièrement. Quel est le rationnel scientifique de vacciner des nourrissons contre une maladie qui est uniquement à transmission sanguine ou sexuelle? C'est la seule interrogation que j'ai vis-à-vis de cette vaccination particulière, parce que je ne comprends pas, et avec mes collègues spécialistes aussi, on se pose la question de cette vaccination-là, du rationnel scientifique chez les nourrissons.
Voilà, question très claire, François Bourdillon.
Oui, ben l'hépatite B, ça touche 300 000 personnes en France et ça se transmet de la mère à l'enfant. Et donc, c'est une des raisons principales. Il y a du virus qui circule et il faut protéger l'ensemble de la population. Mais j'en profite pour revenir sur la faillite pédagogique et la défiance. Il faut essayer de la comprendre. Donc, on a parlé d'une communication qui était parfois un peu hasardeuse. On peut aussi dire que le double système, le système de vaccins obligatoires et de vaccins recommandés est assez incompréhensible pour monsieur tout le monde, parce que les recommandés donnent l'impression d'être moins importants que les obligatoires, et ils donnent l'impression qu'il faut avoir le choix, et lorsqu'on peut avoir le choix, ça crée de la défiance. Et lorsque il y a eu tout le débat de concertation citoyenne l'année dernière qui a eu lieu, et je rappelle pendant une année où tous les points de vue ont pu s'exprimer, le débat il a quand même tourné sur comment restaurer la confiance et comment dialoguer avec la population. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites, et je pense que c'est aussi cette concertation citoyenne avec ses jurys, avec la consultation internet qui a eu lieu, qui a permis de refonder le discours et de permettre au ministre de la Santé de prendre ses décisions d'obligation pour protéger les enfants, parce que c'est au titre de la Constitution une mission régalienne de l'État.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors vous l'imaginez, beaucoup de remarques portent notamment sur l'innocuité probable ou possible des vaccins? Comment en être complètement sûr? Y a-t-il des effets indésirables? Philippine Parmeil nous dit, plutôt que de se cristalliser sur les obligations vaccinales, le véritable combat ne serait-il pas de chercher à obtenir la garantie de l'innocuité des vaccins, suppression de l'aluminium notamment, que ces vaccins contiennent? Émile nous dit aussi par mail comment faire pour que les laboratoires contrôlent les adjuvants et leurs effets néfastes. Qui peut répondre à ça, François Vielle-Sage?
Oui, alors sur les adjuvants, il faut d'abord comprendre à quoi ça sert. Les adjuvants, c'est justement ce qui nous permet de faire des vaccins dans lesquels il y a 6 ou plus maladies. Donc de limiter le nombre de piqûres qu'on fait aux enfants, qu'on fait nous tous les jours. Et moi, je préfère faire un seul exact que 6 vaccins séparés, c'est clair. Et les enfants que je vaccine préfèrent aussi. C'est ce qui permet d'avoir moins de doses d'antigènes dedans, c'est-à-dire des molécules qui vont donner l'immunité. Et finalement, c'est aussi ce qui permet d'une certaine manière d'avoir moins de réactogénicité, parce que les antigènes, du vaccin sont délivrés plus progressivement qu'un vaccin sans adjuvant où c'est délivré d'une masse d'un coup, ce qui explique d'ailleurs les effets indésirables de l'ancien DTP. Alors l'alu, ça fait juste 90 ans qu'on s'en sert.
L'aluminium, oui.
Ça fait 90 ans qu'on s'en sert dans les vaccins. Ça veut dire, c'est des doses qui sont minimes par rapport à tout ce que vous avez dans la cosmétique, l'alimentation et même l'air, puisque la Terre est faite d'alu. C'est le principal métal qu'on a sur la planète. Il n'y a qu'une seule équipe. Alors, je réponds d'ailleurs au monsieur qui tout à l'heure disait, où sont les scientifiques anti? Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a sur l'aluminium, il n'y a que Gérardi et Autier qui ont travaillé là-dessus. Mais ça fait 20 ans qu'ils essayent de démontrer qu'il y a un passage dans le cerveau. Ils n'y arrivent pas. Ils l'ont démontré uniquement sur des souris transgéniques. Ça veut tout dire. Et ces gens-là sont présents. Leurs études ont même été en partie financées par la DGS. Donc, on ne les abandonne pas et on écoute ce qu'ils disent. Mais malheureusement, ils n'ont pas de résultats. Et sur l'absence de scientifiques, là-dessus, je suis désolé, mais on a un collectif de 20 à 30 associations médicales et scientifiques qui sont d'accord avec nous. Donc là-dessus, je finis de lui répondre.
Juste une question concrète de la part d'un néophyte. Comment fait-on, parce qu'un vaccin, c'est quand même pas indolore, comment fait-on pour faire subir ça à un nourrisson? 11 vaccins hein, pour un nourrisson.
Bah, c'est... 11 vaccins, c'est deux injections à 2 et 4 mois, une à 5 mois, deux à 11 mois, deux à 12 mois et une à 16-18 mois. Puis après, c'est 6 ans, 25 ans, une ou deux injections.
Ce n'est pas sans effet.
Bah, nos consultations, c'est le courant de tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou pédiatres, qui vaccinent. Hein. Et il faut bien vous dire que depuis 2013, on a diminué le nombre d'injections qu'on a fait. On a supprimé deux injections à 3 mois. Donc, on a simplifié le calendrier vaccinal. On essaye de faire justement avec l'EXA les vaccins polyvalents qui ont plusieurs maladies de regrouper dans une seule injection et c'est ce que nous permettent l'alu justement. Cet alu, si vous voulez, il y a eu quand même des rapports sur sa tolérance. C'est l'OMS, l'INVS, l'Académie nationale de médecine, le Haut Comité de santé publique, l'Académie nationale de pharmacie, pour ne citer que l'OMS et les structures françaises, mais sur toute la planète c'est utilisé et depuis 90 ans. Donc on n'a pas d'adjuvant qui soit mieux toléré et plus efficace. On a essayé d'utiliser les sels de calcium dans les années 60-70, mais on les a retirés tout simplement parce qu'ils étaient inefficaces.
Dominique
Pas
Dupin.
Forcément moins d'effets secondaires.
Dominique Dupin.
Alors voilà, donc... L'innocuité, c'est quelque chose qui n'existe pas en termes de médicaments. Le médicament le plus anodin, on ne peut pas parler d'innocuité. On doit parler de rapport bénéfice-risque. À quel risque expose le produit? Quel est le danger qu'il permet de combattre? Quand vous parlez tout à l'heure du vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la rougeole donne une fois sur un million une encéphalite. Le vaccin, une fois sur un million une encéphalite. La rougeole donne une fois sur mille une encéphalite. Donc là, si vous voulez, on peut logiquement accepter de faire une encéphalite une fois sur un million quand on évite une encéphalite sur mille, pour prendre un calcul simple. L'aluminium lui-même est très décrit. Nous n'avons pas d'études qui montrent de façon évidente qu'il y a une toxicité significative de l'aluminium. On a juste une étude qui a concerné un vaccin qui n'est pas dans les 11 obligatoires, qui est le Gardasil, vaccin contre le cancer du col. On a fait cette fois-ci une étude très solide, très sérieuse sur 2 millions de sujets entre ceux qui avaient reçu le vaccin ou pas. Et on a montré, par exemple, que ce fameux syndrome de Guillain-Barré, une maladie neurologique qu'on a souvent associée au vaccin, qui souvent est bénigne mais peut être grave, eh bien, la vaccination Gardasil, qui contient l'aluminium, augmente le nombre de cas de Guillain-Barré d'un pour 100 000. C'est-à-dire qu'on est dans des risques. Encore une fois, si les risques liés à l'adjuvant
existent, et moi je pense qu'ils existent, ils sont très faibles, c'est une fois sur 100 000. Si le vaccin ne sert à rien, c'est inacceptable. Si le vaccin sauve des vies, c'est tout à fait concevable, à condition de mettre en balance le bénéfice-risque. Et c'est là que je pense que la communication des autorités doit être honnête. Il ne faut pas dire « ça n'existe pas », il faut dire « si ça existe, c'est tellement faible » que c'est à la limite du mesurable et que ça ne remet pas en cause l'intérêt des vaccins qu'on vous oblige à faire.
Alors sur ce point justement, un témoignage, celui de Valérie qui nous appelle de Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon. Bonsoir,
oui,
Valérie.
Bonsoir. Oui, moi je voulais juste apporter un témoignage en fait. Alors je suis ni pour ni contre les vaccins a priori. Par contre, l'expérience que j'ai vécue, c'est d'avoir fait vacciner mon petit garçon de quelques mois à l'époque. Et on a vécu suite au vaccin en fait des complications respiratoires, des séances de clapping à n'en plus finir, douloureuses et violentes pour l'enfant et pour nous. Et en fait, on a consulté un pédiatre qui est très réputé en France et qui nous a dit, un pédiatre homéopathe, et qui nous a dit, votre enfant, il est juste survacciné, et qui nous a fait un protocole anti-vaccin. Et en 3 semaines, ça a été réglé, terminé.
François Bourdillon.
Oui, alors moi je suis pas clinicien, peut-être qu'il faut interroger les cliniciens, mais pour rebondir sur la question des effets secondaires, je crois qu'il faut aussi comprendre que le système de pharmacovigilance aujourd'hui dans notre pays, mais comme dans les pays européens, en Amérique et dans beaucoup de pays industrialisés, est réel. Et lorsque vous avez autant de personnes vaccinées dans le monde, c'est-à-dire plus de 100 millions tous les ans, avec un recul sur des dizaines d'années, vous voyez apparaître les signaux. Et je suis d'accord sur le Gardasil, 1 pour 100 000 de Guillain-Barré, c'est très vite décrit. Pour le vaccin pour la pandémie, on a été capable d'identifier très vite des cas de narcolepsie. Pour le reste, c'est vraiment très anecdotique et il faut dire que ces vaccins, dans la petite enfance, sur les 11 vaccins concernés, ont quasiment pas d'effets secondaires.
François Vielle-Lesage, ce témoignage de Valérie, un enfant survacciné.
Alors pour rebondir sur le Guillain-Barré, c'est vrai qu'il y avait eu un tissu risque dans l'étude de l'Agence nationale de santé du médicament et la CNAM. Ça a été quand même démenti par l'étude d'Andrews qui vient de sortir, qui est à partir d'une cohorte anglaise et qui montre que par contre, ils ne retrouvent pas de Guillain-Barré. Donc on est vigilant, il y a des études. Quand les études donnent des sur-risques, ils le donnent. Et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Dupagne, il faut être transparent et il faut le donner. Mais là, en l'occurrence, si les vaccins sont faits, et en particulier le Gardasil, il n'y a aucune augmentation de maladies auto-immunes. Et finalement, le Guillain-Barré, il n'y a que l'étude française qui a semblé montrer un surrisque. Alors, pour la dame qui, avec son enfant, qui a fait des troubles respiratoires. Excusez-moi, mais moi, j'en vois tous les jours et ça me traumatise pas. C'est ce qu'on appelle le syndrome du chat noir, hein. Moi, je peux très bien faire un vaccin le lundi et que l'enfant vienne dans le service d'urgence pédiatrique où je prends des gardes, avec une bronchiolite sévère ou démarrer un asthme, etc. C'est quand vous croisez un chat noir et que vous êtes licencié de votre boulot le soir, c'est pas d'aller massacrer le chat noir qui va vous rendre votre boulot.
Vous voulez dire que ça n'a pas de rapport? Ça n'a pas de lien?
C'est un rapport temporel, mais pas forcément un lien. Comme disait François Bourdillon, le lien, on va le créer comment? Eh ben, on va le créer en faisant des études épidémiologiques. Prenons des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens vaccinés avec les mêmes facteurs de risque, et une autre population avec les mêmes facteurs de risque qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'ils font plus d'asthme? Est-ce qu'ils font plus de maladies auto-immunes? C'est comme ça qu'on peut démontrer. Mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle les maladies attendues. Les maladies attendues, c'est ce qui se passe d'ailleurs pour les maladies auto-immunes à l'adolescence. On les vaccine contre l'hépatite B, on les vaccine avec le Gardasil, et puis ils font des maladies auto-immunes. Oui, mais si on les vaccine pas, ils font aussi des maladies auto-immunes. Des maladies neurodégénératives, c'est 3000 par an qui sont diagnostiquées en France, dont 1000 CEP. Et ben, si vous les vaccinez, on aura 3000 maladies neurodégénératives et 1000 CEP. Les études épidémiologiques vont venir nous dire, est-ce qu'il y a une augmentation du risque? Est-ce que ce risque est significatif? Voire, est-ce qu'il est important? Est-ce que, comme disait Monsieur Dupagne, il y a un sur-risque, mais par rapport au rapport risque-bénéfice, on peut l'accepter, ce qui est possible, ou est-ce qu'il n'y a pas de sur-risque, en tout cas pour le Gardasil, pour l'instant, à part cette étude française sur un petit risque d'augmentation du Guillain-Barré, qui est quand même très exceptionnel. Donc multiplié par un risque exceptionnel, ça fait toujours très très rare, voire encore exceptionnel.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais question qui s'adresse à vous trois, finalement, il y a 70 000 morts par an avec le tabac, on en parlait hier soir ici même, est-ce qu'il faut interdire la consommation de tabac? 25 000 personnes sont potentiellement contaminées par le sida, est-ce qu'il faut imposer un dépistage obligatoire à tous? François Bourdillon.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut pas que la santé publique coupe le plaisir et soit un ayatollah du risque. L'État intervient lorsqu'il y a un risque pour autrui. Et finalement, pour la cigarette, vous interdisez de fumer dans les lieux publics. C'est une obligation. Finalement, au début, les gens ont râlé, et puis finalement, c'est accepté. Pour la voiture, c'est ce que je disais tout à l'heure, sécurité routière, faut pas boire au volant, et il faut mettre la ceinture de sécurité, c'est une obligation. C'est pour protéger soi-même, mais aussi les autres personnes qui sont dans votre voiture ou qui roulent en face, et c'est accepté. Et donc, il faut savoir vivre en société et accepter des règles collectives du vivre ensemble.
Retour au standard avec Maurice, qui nous appelle d'Aurillac, dans le Cantal. Bonsoir Maurice.
Oui, bonsoir à tout le monde. Je voulais intervenir parce que même en dehors de toute polémique par rapport à l'aluminium dans le DTP, etc., je me pose la question pourquoi on vaccine tout le monde sans savoir si les gens en ont besoin. Pour mon expérience, c'est à deux reprises, j'ai consulté aux urgences de deux hôpitaux, à Paris, hôpital militaire, et Aurillac, hôpital civil, pour un panari au pouce. Et à chaque fois, on m'a proposé, parce que j'étais un petit peu réticent, on m'a proposé un test et j'ai évité donc cette vaccination, sachant que j'étais immunisé alors que j'ai 67 ans et je n'ai jamais fait de rappel de ma vie. Voilà la question que je me pose. Et d'autre part, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait du professeur Joyeux qui avait été rayé du Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je crois savoir quand même que le Conseil d'État lui avait donné raison et avait intimé à la ministre de redemander la fabrication du DTP aux fabricants. Voilà.
Bon, on va pas revenir sur la biographie du professeur Joyeux. François Vielle-Sage, sur le tétanos, alors qu'un test permet de détecter l'immunité.
Bah, écoutez, là, c'est comme disait mon confrère Dominique Dupagne, c'est vaccin par vaccin. Pour le tétanos, on sait que quand on a eu 5 vaccins, par exemple, dans l'enfance, on n'a jamais eu de tétanos après. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont effectivement pas besoin qu'on leur fasse des rappels pour le tétanos. Mais le tétanos, c'est une maladie particulière. Il faut être vigilant parce que c'est une maladie très grave et que vous savez pas si vous êtes immunisé ou pas au départ. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que le calendrier vaccinal a été allégé pour les adultes. Avant, on faisait des rappels tous les 10 ans de tétanos. Maintenant, c'est tous les 20 ans. On s'est aperçu que ça suffisait. Donc voilà, on va pas prendre chaque exemple comme l'histoire de la coqueluche et l'hélicoptère, l'histoire du tétanos, etc. S'il y a un calendrier vaccinal, ce sont des vaccins qui sont recommandés à l'ensemble de la population avec des tranches d'âge déterminées, qui ont été étudiées par le comité technique de vaccination, par le haut comité de santé publique, à partir d'études indépendantes, à partir de recherches, et qui démontrent que ces vaccins sont utiles pour la majorité des enfants. Et des patients. Après, faire individuellement, ok, mais il faut faire des prises de sang 10 fois, 15 fois, à chaque fois, tous les ans, pour savoir si les gens sont protégés. C'est pas réalisable, et en plus, dans la majorité des cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien.
Vous parliez des rappels...
Alors pour Monsieur Joyeux, c'est faux, hein, l'histoire du con. Bon, ce qu'a dit ce monsieur, c'est juste faux. Hein.
Vous parliez des rappels tout à l'heure, François Vielle-Sage. François Bourdillon, justement, à propos des rappels, là je parle des vaccins obligatoires, on voit dans les chiffres que les premiers vaccins, la primo-vaccination est très, très suivie, mais au niveau des rappels, il y a beaucoup d'oubli, hein, disons, beaucoup de négligence.
Oui, c'est lié essentiellement aux obstacles techniques, parce que finalement, quand vous voulez aller faire le rappel, il faut prendre rendez-vous, il faut que votre généraliste vous fasse l'ordonnance, vous alliez à la pharmacie, que vous retourniez voir le généraliste. C'est pas forcément une opposition, c'est simplement finalement, les parents travaillent, il faut trouver le rendez-vous, il faut venir deux fois, et d'où l'intérêt de réfléchir en termes de politique publique sur les levées de ces obstacles, de manière à permettre que la vaccination devienne un geste facile.
Problème pratique. Philippe nous appelle de Chartres sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, effectivement, les lobbies. Nous vous écoutons.
Oui, simplement, pas pour une question, bonsoir messieurs, simplement pas pour une question, mais pour une remarque, c'est que depuis le début que j'écoute l'émission, je vois la promotion des vaccins, et notamment de ces 11 vaccins. Je voulais dire que je faisais partie de ceux qui n'étaient pas du tout d'accord avec cette idée, ni avec l'idée de la peur qui est transmise, si on ne se vaccine pas, on risque de tomber malade. J'ai 57 ans, j'ai eu 3 vaccins, ça m'a tout à fait suffi dans ma vie. Je pense pas que les enfants d'aujourd'hui soient très différents, et je voudrais dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent et qui sont dans cette idée-là, et je voulais amener simplement cette idée-là dans l'émission. Je pense qu'il faut aussi en tenir compte.
Dominique Dupagne.
D'abord, je précise, conformément à la loi, que je n'ai pas de lien d'intérêt personnel avec l'industrie pharmaceutique, donc je ne suis pas influencé. Sur les lobbies, oui, c'est un vrai problème parce qu'il y a une suspicion. D'une part, l'affaire des vaccins de la grippe H1N1 a jeté un doute sur les relations entre le politique et les fabricants de vaccins, à cause de la façon dont ça s'est passé, c'est assez sombre. Mais surtout, on a un énorme problème en France, c'est que la recherche n'est plus financée ou quasiment plus financée par les pouvoirs publics, donc tous les gens qui sont en pointe dans leur domaine sont forcés de faire financer leur recherche par l'industrie pharmaceutique. Et donc, ils se trouvent tous à avoir des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et en même temps, c'est vrai que ce sont les gens qui ont une expertise. Et nous, ce qui nous manque en France, ce sont des experts qui se tiennent au courant de façon étroite des nouveautés, qui savent raisonner, qui ont une tête qui fonctionne bien et qui vont pouvoir donner des recommandations, prendre des décisions sans avoir ces liens qui, même si on est très honnête intellectuellement, influencent toujours la réflexion.
Est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner cette obligation, François Bourdillon, d'abord d'une prise en charge à 100% des vaccins et d'une baisse des prix, d'une obligation de baisser les prix?
Oui, alors d'abord, la prise en charge à 100% mutuelle plus assurance maladie, elle est réelle et donc c'est pas un sujet. Le coût unitaire des vaccins, honnêtement, il est relativement faible. Ils sont déjà totalement pour 70-80% en fonction des vaccins pris en charge et remboursés. Après, que l'industrie pharmaceutique, et j'ai pas de lien d'intérêt du tout, est-ce qu'elle fait des bénéfices? Moi, j'ai envie de vous dire, lorsque vous achetez des voitures, est-ce que vous ne l'achetez pas au prétexte que ça va enrichir le constructeur de voitures? Il y a un moment, le fabricant de vaccins, il fait des vaccins pour vendre des vaccins, c'est normal qu'il fasse un petit bénéfice. Et honnêtement, c'est pas sur le prix des vaccins qu'on fait la richesse des laboratoires pharmaceutiques, que c'est sur d'autres médicaments.
Voilà, en rappelant que s'il n'y avait pas d'obligation sur les trois vaccins actuellement obligatoires, 13% des Français ne vaccineraient pas leur enfant, ce qui poserait évidemment un gros problème de santé publique. Merci à vous François Bourdillon, directeur de l'Agence Nationale de Santé Publique, François Vielle-Sage, pédiatre qui était avec nous en direct de Chambéry, et Dominique Dupagne, médecin généraliste chroniqueur à la Tête au Carré. Bonsoir à tous, il est 20h.